Revue de presse de l'April, semaine 45, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Alors Manu, parle-nous du sommaire.
On a un joli petit sommaire sur lequel on va s'éterniser. Non, je rigole. On va vous parler de Canonical, la TVA et les e-books, les internautes qui doivent se révolter bientôt, la bureautique libre, réparer Internet. Je savais pas, il est cassé, mais bien sûr. Et l'open source qui est en guerre, le Brésil, et pour finir, on va vous parler de liberté logicielle. C'est un peu le sujet de toute manière.
Développé.com, Canonical, acteur de l'open source, use des droits de marque contre un site. Un article de Ino Romari. Canonical, c'est qui ça?
Canonical, c'est la société qui est derrière Ubuntu, donc qui finance tout ça et qui gère un peu la distribution. Et donc là, elle a utilisé son droit des marques pour faire taire un site dissident qui critiquait les choix qui avaient été faits par Canonical.
Alors c'est quoi la différence entre droit des marques et licence libre, tout ça?
Vous pouvez utiliser un mot, n'importe quel genre de mot, ou un dessin, un logo, pour dire voilà, c'est le mien.
Et voilà, c'est ce qui assure l'identité. Donc, c'est le cas de l'essentiel des logiciels libres, pas tous, mais dans l'idée, ils ont du code libre, on peut le reprendre, le modifier, etc. Mais bien souvent, le nom, le logo, etc., par contre, lui, il est protégé parce que c'est l'identité du projet.
Et justement, ça peut être utilisé comme une arme.
Pour ceux qui ont suivi un peu l'historique, Ubuntu propose une recherche unifiée. Donc, en fait, quand on fait une recherche sur Ubuntu, ça publie des données sur Amazon, et donc, c'est pas top, c'est plutôt
ça un. Ça publie des données sur Amazon?
Non, ça lit, ça consulte.
Ça consulte des données.
Oui, ça propose des trucs qui viennent d'Amazon.
Qui viennent d'Amazon, et donc il y a un site internet qui a dit bah voilà, c'est pas bien parce que la vie privée, parce que tout ça, et donc qui a donné les lignes de commande à taper pour se débarrasser de ces fonctionnalités.
Voilà, le site s'appelle quelque chose comme Fix Ubuntu, donc réparer Ubuntu, sous-entendu que cette fonction est une fonction dysfonctionnelle, une sorte de panne, et donc la personne qui a monté ce site-là s'est vue mise en demeure par Ubuntu de fermer boutique. Puisqu'il utilisait le nom Ubuntu.
Et le logo qui devait être présent quelque part sur les pages. Et effectivement, d'après le droit des marques, la société détentrice a le droit de s'en garder l'usage. Sauf que c'était pas l'habitude de Canonical. Donc là, on voit l'article, mais on sait ça par ailleurs. C'était vraiment pas son habitude. Et effectivement, il semblerait que c'était un bug dans leur gestion de tout cela.
Voilà, c'est ce qu'a dit Mark Shuttleworth, le patron d'Ubuntu. Et qui a dit ok, on l'a fait, mais c'était une erreur de notre part. Bon, en tout cas, voilà, cette affaire n'ira pas plus loin puisque Canonical a fait marche arrière, tant mieux. Mais il y a eu d'autres histoires hein, sur ces questions de droit des marques. Je crois que notamment Firefox avait fait ça à une époque.
Et il continue. Hein,
il continue puisque le projet Debian, par exemple, a été obligé de le renommer en Icewhizzle et parce que le logo et la marque Firefox est détenu par Mozilla.
Voilà, parce qu'ils font quelques modifications sur le logiciel et Firefox refuse ces modifications. Et Icewhizzle, on se doute, hein, c'est. C'est pas très amical comme nom, c'est la fouine de glace, donc l'inverse du Firefox. Numérama, la TVA des e-books ajustée en fonction des DRM suggérés dans un amendement à un article de Julien L.
Alors c'est un sujet qu'on avait déjà vu, il y avait déjà eu des propositions. En gros, quand vous achetez un livre, si ce livre contient des DRM, donc des blocages, des menottes numériques,
électronique, oui.
Vous n'auriez pas le droit aux mêmes conditions sur la TVA.
Voilà. Alors l'idée est partie d'Isabelle Attard, qu'on connaît bien, dont on est très fan, puisqu'elle a posé des questions à l'Assemblée nationale à tous les ministères pour savoir combien ils dépensaient en informatique et en informatique libre, et sur une proposition de loi pour s'attaquer au fait que Amazon offre les frais de port. Elle a dit non, ce qu'il faut faire, c'est retirer la TVA à 5,5 sur les e-books avec des DRM, parce que ce ne sont pas des livres, ce sont juste des services de lecture. Elle avait lancé ça comme une sorte de... d'idées, de provocations, de contre-arguments face à cette proposition-là. Et là, bonne surprise.
Et ce qu'elle dit, donc, c'est effectivement qu'on n'achète pas du tout la même chose entre des livres et des DRM, puisque les DRM enlèvent des droits à l'utilisateur. Cette idée, en fait, a été reprise par l'April et Calimac, qui est un juriste et bibliothécaire. Et ils veulent adapter les taux de TVA en fonction du livre. Et s'il contient des DRM, et ben, on est sur une TVA à 19,6. On fait partie de la catégorie de luxe. Et si on n'a pas de DRM, qu'on est complètement libre, on est à 5,5, donc avec les TVA réduites.
Mauvaise surprise, par contre, je crois que c'est paru aujourd'hui, l'amendement a été retiré, et c'est un petit peu dommage.
C'est même carrément dommage, parce que je trouvais que c'était vraiment une très très bonne chose d'enfoncer le clou là où ça fait mal, à dire, quand vous avez un truc avec des DRM, vous achetez moins que quand vous n'avez pas de DRM, vous êtes en train de vous faire retirer des droits, retirer des possibilités, et on est en train de vous... refourguer quelque chose, on ne vous vend pas, on vous loue en quelque sorte.
Et quelque chose qui n'est pas un livre.
Qui en gros ouvrait la porte pour tous les autres types de formats et faire la différence entre ce qui était DRMisé ou pas. Et donc c'est dommage que cette occasion soit ratée. Bilan, les experts appellent les internautes à se révolter. Un article de Leila Huberschlag ou quelque chose comme ça.
Donc les spécialistes, surtout un spécialiste, qui dès le début est présenté, Caspar Bauden, et qui vient parler en connaissance de cause.
Oui, alors c'est assez incroyable, c'est qui ce Caspar ?
Donc Caspar, c'était un ancien de chez Microsoft qui travaillait sur tout ce qui concernait le respect de la vie privée et la sécurité des données des utilisateurs, et il travaillait donc au sein de Microsoft, et il se rend compte qu'il s'est fait...
2002 à 2011, hein, donc c'est pas un passage éclair, voilà. Il est resté longtemps. Et donc, citation de Caspar, « Je n'avais pas connaissance du programme Prism quand je travaillais pour Microsoft, je ne crois plus mon ancien employeur. » Donc au moins, ça le mérite d'être clair.
Et il en rajoute, puisqu'aujourd'hui, il n'utilise plus que... du logiciel libre, donc on apprécie, c'est pour ça que l'article est là, hein, faut pas rêver, et donc il déroule un petit peu tout ce qui s'est passé sur Prism, la NSA, Edward Snowden, on en a parlé, on en reparle même dans cette revue de presse, mais c'est quand même bien intéressant, et puis là ça donne des billes.
Voilà, donc bah il y a toujours le problème de NSA Prism avec pas mal d'entreprises américaines qui ont signé un espèce de pacte avec le gouvernement pour espionner tous les utilisateurs. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui réfléchit sur ce sujet, comment est-ce qu'on peut améliorer Internet pour essayer de fermer ces brèches-là et redonner la liberté aux utilisateurs. Donc dans la suite de la revue de presse, on verra justement d'autres experts qui travaillent là-dessus et donc ils disent faut se rebeller, faut se révolter, c'est absolument contre les libertés de l'homme et les libertés d'expression et autres. Et donc faut faire changer tout ça et vraiment se rebeller.
Alors, on avait parlé la semaine dernière, et on voit que cette semaine ça continue, et donc il y a d'autres articles sur le sujet dans la revue de presse, on les verra tout à l'heure. En attendant, tout Linux, la bureautique libre peine à séduire les entreprises, un article de Philippe Scofoni.
Alors ce ne sont pas vraiment des bonnes nouvelles qui nous tombent dessus, c'est même le contraire, donc on va vous parler de bureautique libre, donc LibreOffice et Office.
Et OpenOffice.
Et OpenOffice, oui, effectivement, qui fait partie de la fournée. Voilà. Donc en gros, il y a des statistiques qui sont sorties sur leurs usages dans les entreprises et chez les particuliers, qui ne sont pas très encourageantes.
Oui, voilà, donc ils ont interrogé 148 clients donc en leur demandant quel outil de bureautique ils utilisaient ou ils comptaient utiliser. Donc malheureusement, Microsoft Office est toujours largement en tête dans les entreprises, et en plus, point vraiment notable, il y a une forte diminution de la présence des logiciels libres, donc en particulier LibreOffice et OpenOffice, dans ces entreprises, donc qui est passé de 13% à 5% si je me trompe.
Voilà, bon, ça reste que 148 entreprises qui sont clientes de la boîte Café L'Étude, donc on ne peut pas dire que ce soit statistiquement représentatif, mais en tout cas, bon, c'est un signe pas tout à fait encourageant.
Ils mettent en avant une transformation des usages qui basculerait vers des suites qui sont sur Internet, Google Drive par exemple, et il faut savoir que LibreOffice, ils sont en train de travailler là-dessus pour fournir du logiciel par le net pour faire des documents.
Alors, l'article rappelle que ça fait longtemps qu'ils annoncent ça et que ça a du mal à venir, mais en même temps, c'est vrai que c'est un saut fonctionnel assez important. Sled.fr, leur mission, réparer votre Internet cassé par la surveillance. Un article d'Anaël Guiton. Donc c'est effectivement la suite de ces sujets dont on parlait, on en a parlé la semaine dernière, on avait notre article tout à l'heure avec notre ancien de Microsoft. Et là, ça fait un tour d'horizon des solutions et des projets en cours pour régler ces problèmes de surveillance.
Et de ce que je vois, en gros, c'est même le sujet du moment qui occupe tout le monde. Tout le monde est en train de réfléchir à comment solutionner ce problème, parce que oui, c'est ce qui se passe souvent avec les geeks et les hackers. Eux, quand ils voient un souci, ils essayent de le contourner ou d'y répondre par des réponses techniques. Et de ce que j'ai compris, il y a même des gros organismes qui sont en train de bosser là-dessus.
Après la révolte, on va dire, il y en a qui cherchent aujourd'hui les plans d'action pour se sortir de là. Donc il y a des rassemblements un peu plus underground du type Home 2013, qui est un colloque de hackers qui s'est tenu aux Pays-Bas, donc ils ont beaucoup discuté autour de Snowden, des lanceurs d'alerte, voir un peu tout ce qu'on était capable de faire. Il y a des choses beaucoup plus administratives, beaucoup plus en profondeur, donc qui est par l'IETF, le groupe de travail autour d'Internet, donc de toutes les technologies d'Internet, qui a tenu des réunions la semaine dernière, et le gros sujet de discussion a été comment protéger l'utilisateur par rapport à toutes les nouveautés comme Prism, et donc voir tous les mécanismes qu'on peut mettre en place, de la sécurité de bout en bout, tout chiffré dans tous les coins, et pour protéger les utilisateurs.
Voilà, il y a une autre question, c'est aussi comment on fait pour que la masse, tout le monde puisse en profiter, avec cette idée que des projets qui avancent à 90% et où reste 10% à faire, il y en a un paquet, mais que c'est les 10% qui restent qui sont en général compliqués à faire et qui vont faire la différence au niveau d'un usage du grand public, et que ça pose la question notamment du financement de tout ça. Donc il y a beaucoup de choses dans cet article qui est assez long, assez complet. Ça parle également de Calliope qu'on avait cité la semaine dernière, qui est quelque chose un projet qui se fait en France. Des citations de nos amis de la Quadrature également sur ces enjeux-là. Le Cercle et les Échos, open source, la guerre est finie, point d'interrogation, c'est une chronique de Patrice Bertrand qu'on retrouve très régulièrement dans la revue de presse.
Donc un article intéressant parce que justement, il présente la paix entre deux factions dont on discute pas mal, l'open source, donc le logiciel libre pour être plus générique, et le logiciel privateur, le logiciel propriétaire qui se tape dessus depuis des années et des années, parce que c'est logique, hein, ils sont très antagonistes même dans leur définition, et là ils présentent l'idée que cette guerre est terminée.
Voilà, une idée qui, de ce qu'il dit, est en train de circuler à droite à gauche en disant bon bah voilà, personne ne fait plus rien sans avoir au moins quelques briques en libre. Et bon, c'est quand même très courant d'avoir des bouts de propriétaires, et ce monde-là, finalement, cohabite très bien, donc il n'y a plus matière à faire la guerre. C'est une idée qui circulerait, et Patrice Bertrand l'examine.
Donc effectivement, là, l'auteur regarde est-ce que la guerre est vraiment finie, et donc il en arrive à la conclusion qu'en fait, le privateur est en train d'essayer de prendre pour des cons le libre, puisque malgré qu'ils disent bon bah ok on va se servir du libre, derrière ils essayent de pousser des brevets logiciels
et des
DRM, et donc en fait ils disent d'un côté ce qu'ils font pas de l'autre. C'est un peu le privateur est un peu en train de faire l'escroc au milieu de tout ça.
Voilà, il dit qu'à l'inverse, justement, ces questions de surveillance qui ont émergé avec Prism lance un vrai défi pour le libre et montre que le logiciel libre, avec cette idée de assurer la liberté de l'utilisateur et la maîtrise de son informatique, est plus crucial que jamais.
Alors moi, je rajouterais autre chose. Il y a un argument dont on a entendu parler déjà dans le passé, c'est qu'en gros, le libre a gagné. Les méthodes, les outils, les briques du libre, la preuve, elles sont reprises par le logiciel privateur qui en a besoin. C'est une base de départ et on ne peut pas tout reconstruire de zéro. Il faut se baser sur ce que les autres ont fait. Donc c'est une idée qui est intéressante. Malheureusement, c'est un peu démobilisateur. Donc il faut pas oublier, il y a plein de combats encore à faire. Le brevet logiciel, les DRM, ce n'en sont que deux parmi d'autres. Et il y a vraiment encore du travail, on est loin de la fin.
C'est là où on peut regretter que Patrice Bertrand utilise le terme d'open source, parce qu'à mon sens, oui, l'open source a gagné dans cette dynamique qui dit bah, on va partager le code juste pour coder mieux et moins cher.
Oui, sur le pragmatisme et la technique.
Hein. Mais voilà, le logiciel libre, c'est d'abord cette question de liberté et de contrôle, et là, on est très très loin du compte. Folha de S. Paolo, le Brésil ne veut plus de logiciels impossibles à auditer. Un article de Natuza Neri et Julia Borba.
Alors, un super article, hébergé et traduit par le Framablog, que je vous encourage à aller voir, parce que là, c'est une grande nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Il y a un État, et pas un petit État, un État qui se défend et qui se rebelle et qui va un peu bouger les choses du point de vue de la surveillance.
Il demande à pouvoir mettre son nez dans le code source pour voir comment ça marche et est-ce que des fois il n'y aurait pas des systèmes pour les espionner.
Donc le code source de...
Le code source de un peu tout ce qu'il va y avoir dans l'administration brésilienne. Donc c'est encore par rapport à l'histoire de Edward Snowden et Prism et autres. Aujourd'hui, le Brésil se rend compte qu'ils ne peuvent plus contrôler leur État, tout simplement. Ils ont tout mis entre les mains de sociétés étrangères et américaines en particulier. Et donc ils veulent pouvoir auditer tout ce qui va passer dans l'administration.
Microsoft s'est déjà déclaré en disant « Mais nous, il n'y a pas de problème. Un État peut venir regarder le code source, on va voir comment on se débrouille et qu'est-ce qu'on met en place pour faire ça. » Mais bon, techniquement, est-ce que ça garantit quoi que ce soit ?
Alors, à mon avis, ça garantit que oui, tu peux voir du code source, mais est-ce que tu vas voir toute la chaîne logicielle qui va de ce code source jusqu'à ce qu'il tourne sur tes ordinateurs ? On en doute, parce qu'après tout, Microsoft, ils ont bien plus que juste le code source de la fonctionnalité. Ils ont des compilateurs, ils ont plein d'autres infrastructures dans lesquelles ils peuvent introduire un peu tout ce qu'ils veulent. Et donc, cacher quelque chose, quand on pense à tous les docteurs en mathématiques qui sont à la NSA, ça paraît pas super compliqué quand on est à leur niveau de contrôle. Et puis surtout, ils évitent quelque chose. Tous les informaticiens qui peuvent auditer du code source libre, eh bien là, ils n'ont pas accès à ce code source privateur. Il y a juste une autorisation, un privilège qui est accordé à certains gouvernements s'ils le demandent dans certaines conditions.
Et puis même s'ils avaient un partenariat avec Microsoft, on se doute bien que si le Brésil détectait quelque chose de à peu près anormal dans le code de Microsoft, ils n'auraient pas forcément le droit d'aller l'expliquer à tout le monde. Le code source ne suffit pas.
Lemonde.fr, la liberté logicielle s'use si on ne s'en sert pas. Un article de Laurent Séguin. Donc Laurent Séguin qui est de la FUL et qui là s'attaque à encore au monde de l'open source, et avec toutes les licences un peu bâtardes, il y a toute une série de systèmes plus ou moins hybrides entre propriétaires et libres. Et là, lui, son argument, c'est de dire qu'à partir du moment où on commence à grenouiller dans ces systèmes bâtards, finalement, ça va contre le libre. Et notamment, il y a des systèmes de double licence ou de version libre, mais où il y a une version payante non libre qui est plus avancée, des choses comme ça.
Donc il va nous parler de contrats et autres blocages.
Oui, c'est un autre type de blocage qui consiste à donner du code qui est libre, mais à mettre des clauses contractuelles en disant, voilà, je te donne un logiciel libre, mais par le contrat qui nous lie pour l'exploitation et éventuellement la maintenance, etc. Je t'interdis de le modifier, etc. Donc même si le code est libre, on peut tout à fait rajouter des contrats par-dessus. C'est une autre façon de coincer et de pervertir les principes du logiciel libre.
Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
Voilà, bah merci tout le monde. Bonne semaine à vous.
À la semaine prochaine tout le monde.